Poker Menteur.
Poker Menteur.
Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux.
Et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur.
Poker Menteur.
L'émission qui interroge le monde.
De Villefranche à Tataouine.
Galade. 100.9.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, Poker Menteur, votre émission favorite mensuelle. Nous allons accueillir Jean-Claude Grezard, mais avant de parler avec notre invité, reprenons notre chronique mensuelle « Fenêtre sur nos mondes », notre chronique géopolitique.
Fenêtre sur le monde, la chronique géopolitique de Poker Menteur.
Bonjour Jeff.
Bonjour Geneviève.
Bon alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, comme il fait un peu froid, j'avais envie de parler de l'Arctique.
Ah bah oui, il était pile dans le ton.
Exactement. Alors pour commencer, je voudrais vous définir ce que c'est que l'Arctique. C'est finalement une région avec 14 millions de kilomètres carrés. Ça représente le plus petit océan du monde. Ce territoire, ou même méritoire, comme disent les géographes aujourd'hui,
très bien,
englobe de nombreuses îles, dont la plus connue est le Groenland, et des territoires américains, européens et asiatiques. L'Arctique correspond au monde du froid, limité par le cercle polaire arctique, hein, qui se situe à 66 degrés de latitude nord. C'est un froid qui est issu de la chaleur moindre qu'il reçoit du soleil et à la nuit polaire qui y dure jusqu'à 6 mois. Enfin, l'Arctique, c'est aussi le monde de l'autochtonie, dont les images d'Épinal sont les ours blancs et les Inuits.
Alors justement, là, quand tu évoques l'Arctique, moi j'ai tout de suite des ours blancs sur des tout petits bouts d'iceberg. Ça correspond à cette réalité-là ?
Ah, au réchauffement climatique, effectivement. Hein. C'est une préoccupation globale, ce réchauffement climatique. Mais certains espaces le ressentent déjà très nettement, et c'est le cas de l'Arctique, dont on peut dire qu'il est un espace sentinelle du réchauffement climatique. En effet, l'Arctique a déjà subi des mutations majeures du fait de ce changement climatique. On peut penser à la fonte de la banquise, qui se réduit à 2-12 % par an. Hein. Sa surface estivale est ainsi 5 à 7 fois moindre que dans les années 1980. On peut penser aussi aux 38 degrés de l'été 2020 ou aux incendies qui ont ravagé la toundra sibérienne en 2020 encore. Outre ces manifestations spectaculaires, le réchauffement climatique modifie aussi les paysages et pousse les espèces animales à migrer. Enfin, les risques augmentent pour les sociétés qui peuvent se retrouver confrontés aux inondations au printemps, aux incendies l'été, aux érosions littorales ou encore aux infrastructures fragilisées par la déstabilisation du sol qu'entraîne la fonte du permafrost. Et pour le reste de la planète, le problème est que ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique. Les incendies de l'été 2020 ont ainsi émis autant de CO2 que le Canada, qui est pourtant le 9e émetteur mondial.
Et le tout en un an.
Et le tout en un an, ouais.
Donc préoccupation écologique, effectivement au cœur de notre actualité, n'en déplaise aux climato-sceptiques, mais
oui.
Et les hommes dans tout ça ?
Alors, durant la guerre froide, on ne s'occupe pas trop de l'Arctique, tout simplement parce que c'est une zone de contact entre les États-Unis et l'URSS, donc on laisse de côté. Puis dans les années 2000, on se rend compte que les terres et mers arctiques pourraient contenir le quart des réserves mondiales d'hydrocarbures. Et avec la fonte des glaces, ce potentiel devient exploitable. Aussi, en 2008, les cinq États riverains de l'Arctique, que sont les États-Unis, le Canada, le Danemark, qui possède le Groenland, la Norvège et la Russie, affirment leur contrôle stratégique sur la région. Les investissements se font alors plus intenses dans les hydrocarbures, les activités minières et logistiques de la part de firmes transnationales qui viennent du monde entier. Par ailleurs, dans le cadre de cette mondialisation, les routes arctiques deviennent des itinéraires séduisants car elles sont plus courtes, de plusieurs milliers de kilomètres, que les itinéraires traditionnels entre l'Asie de l'Est et l'Europe. De plus, ces routes arctiques sont aussi plus sûres car épargnées par la piraterie. Néanmoins, le contrôle des routes arctiques soulève des enjeux géopolitiques, hein, car le Canada et la Russie veulent conserver leur souveraineté sur leur détroit arctique, tandis que les États-Unis et la Chine revendiquent plutôt un libre droit de passage. Pour l'instant, le trafic reste limité car de nombreux armateurs, comme le français CMA-CGM, et puis certains expéditeurs, comme Nike ou Puma, renoncent à les emprunter pour des raisons environnementales. En fait, ils font finalement du greenwashing, hein, qui révèle plus de raisons pragmatiques. Hein. En effet, les difficultés de navigation sont encore très importantes. Les navires ne sont pas à l'abri d'énormes glaciers dérivants et de violentes tempêtes maritimes. En outre, la faible profondeur des détroits contraint à n'utiliser que des navires de faible tirant d'eau.
Eh oui. D'accord, d'accord. Ce n'est pas un territoire ouvert, j'en ai bien d'accord. Il y a aussi des populations qui vivent en Arctique.
Et voilà, c'est maintenant le moment de parler des autochtones, donc des Inuits. Alors globalement, les Inuits sont tiraillés par les changements récents qui affectent leur territoire. Ils sont directement touchés par les conséquences du réchauffement climatique, puisque historiquement, ils ont survécu grâce à l'exploitation vivrière des ressources de l'environnement polaire. Or, la pollution des eaux et des sols et la dégradation de la biodiversité ne leur permettent plus de maintenir un mode de vie traditionnel. Aussi, certains Inuits préfèrent saisir les opportunités issues de l'exploitation de leurs terres. On les trouve principalement aux États-Unis ou au Canada, où ils touchent d'importantes royalties de la part des FTN. En Russie, en revanche, leurs droits sont rarement respectés. On retrouve tout de même les Inuits dans la gouvernance régionale, puisqu'ils sont membres de plein droit du Conseil de l'Arctique. Alors, le Conseil de l'Arctique, ça a été créé en 1996, et il constitue le forum intergouvernemental de référence de la région. Il a pour mission de promouvoir la coopération autour de thématiques prioritaires, telles que l'environnement ou le sort donc des Inuits. L'originalité de ce conseil, c'est de mettre à la même table des grandes puissances qui sont souvent rivales, notamment les États-Unis et l'URSS, et la Russie, pardon, j'allais dire l'URSS, lapsus. Ces réalisations sont assez modestes, mais le Conseil de l'Arctique a tout de même pris quelques décisions contraignantes en matière de lutte contre les pollutions dues aux hydrocarbures, notamment en 2013. Néanmoins, le rôle des Inuits est à minorer dans cette institution. En effet, ils ne disposent pas du droit de vote, si bien qu'on peut considérer qu'ils sont finalement assis à la table des enfants. Et pour finir, on peut quand même prendre l'exemple du Groenland. Ce territoire qui est largement autonome du Danemark est majoritairement peuplé d'Inuits. Il se trouve confronté à un important dilemme. Soit choisir l'intensification de l'exploitation de leurs ressources minières, ou alors renoncer à cette exploitation, mais se priver dans le même temps de l'autonomie financière indispensable à leur indépendance future du Danemark. Finalement, le parti Inuit indépendantiste et écologiste est sorti vainqueur des dernières élections législatives en avril 2021. Et il s'est engagé à stopper les projets d'extraction d'uranium et de terres rares.
Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
On va finir finalement sur cette note positive, tout à fait.
Bien, voilà une note positive pour bien commencer l'année alors. Parfait.
J'ai essayé de faire cela, oui. Merci.
Poker menteur. Galade. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mathieu, bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Et ce soir, bonsoir Jean-Claude.
Bonsoir.
Jean-Claude Brozard, qui est notre invité. Jean-Claude est originaire de Saône-et-Loire. Il était à Saint-Vincent-des-Prés et il habite le Rhône déjà depuis quelques décennies.
Et la Calade, pour être précis.
Et la Calade, on va dire le Beaujolais.
Oui.
Un peu... le Lyonnais et le Beaujolais, qui sont en fait les deux régions historiques du département du Rhône. Alors, Jean-Claude, on va s'appeler par les prénoms, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sympathique. On peut commencer déjà, on va vous laisser vous présenter, parce que vous avez eu une multitude de casquettes différentes dans votre vie. Commençons par le commencement. Au début, vous étiez agriculteur, il me semble.
Oui, c'est ça.
Alors, pouvez-vous nous présenter par rapport à ça?
Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier, et puis à travers vous, Radio Calade, de pouvoir m'exprimer aujourd'hui ici sur cette radio. Comme vous l'avez dit, je suis originaire d'un tout petit pays, Saint-Vincent-des-Prés. Saint-Vincent-des-Prés, moins de 100 habitants, qui est dans le Clunisois, au nord de Cluny.
Ah, c'est un peu au-delà du Beaujolais.
C'est au-delà du Beaujolais. Mais dans mon cursus professionnel, donc j'ai quitté ce village. Donc, Je suis issu d'une famille d'agriculteurs depuis des générations. Et avec mes frères et sœurs, nous étions une fratrie de 6. Malheureusement, j'ai perdu un petit frère et une de mes sœurs, qui au passage était artiste en Amérique. Comme j'étais l'aîné, quand je me suis retrouvé l'aîné après le décès de mon frère, tout naturellement, j'étais destiné à reprendre l'exploitation agricole. Et même moi, à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire autre que exploitant agricole. Donc pour ce faire, j'ai suivi un certain nombre d'une scolarité agricole, notamment au lycée agricole de Ressin, où là j'ai appris un certain nombre de valeurs. Au-delà de l'apprentissage de l'agriculture, on nous a forgé, donc c'était des pères salésiens à l'époque, on nous a forgé pour nous donner les éléments nécessaires à devenir des véritables des hommes de la terre, hommes avec un grand H.
Donc ça, c'est la première partie de votre vie, hein, d'accord, qu'on va découvrir maintenant dans un premier temps, l'univers de l'agriculture et votre activité professionnelle en tant qu'agriculteur.
Tout à fait.
Alors, une petite question par rapport à ça, Jean-Claude. Est-ce que vous aviez une certaine liberté par rapport à votre future activité ? Est-ce que c'était un choix, par exemple, d'être devenu agriculteur ? Ou est-ce que, en fait,
on vous a plus ou moins imposé... Est-ce que c'est un destin familial ? Voilà, c'est ça. Un destin familial, peut-être.
C'est une question un peu importante, parce que j'ai connu la même chose avec mon père, notamment, et lui, il a préféré faire autre chose.
Oui, je crois que vous avez raison de poser cette question, parce qu'agriculteur, quelque part, on se sent... intuitivement au fond de soi, on arrive difficilement à l'exprimer, mais on se sent presque obligé de poursuivre ce qui a été fait. Quand j'ai quitté l'exploitation agricole, on y viendra tout à l'heure, c'était un crime de lèse-majesté. Ouais, on ne laisse pas une exploitation agricole, on ne laisse pas la terre. La terre, elle est immovible. Elle est en nous. D'ailleurs, bien que j'ai quitté mon exploitation agricole, je suis resté paysan dans l'âme. Et quand il m'arrive de marcher dans un labour, j'ai les larmes aux yeux. Ça peut paraître puéril, mais je suis resté quand un véritable agriculteur.
Je comprends, oui.
Ouais. On garde ses racines.
Alors,
racontez-nous un peu cette vie d'agriculteur.
Alors, cette vie d'agriculteur, elle est très simple. Hein. Moi, il se trouve que mon père était agriculteur, je vous l'ai dit, mais à côté de lui, il avait son frère, donc mon oncle, qui lui, malheureusement, n'a pas pu avoir d'enfant. Et quelque part, j'étais un petit peu son fils adoptif, si on peut dire. Et donc, j'ai repris son exploitation. Et après, donc, j'ai repris l'exploitation de mon père. On était en Charolais, hein, le Clunisois Charolais. Voilà, laisser sa touche. Et donc j'étais éleveur de bovins charolais, jusqu'à une centaine d'hectares. Et notamment, ce qu'on peut dire, c'est que mon exploitation était composée d'un troupeau charolais inscrit au Airbook, donc au livre généalogique de la race. Et ce qui m'a permis de démarrer les filiations nécessaires pour vendre des reproducteurs.
D'accord, donc c'est extrêmement contrôlé, hein. Les races charolaises, voilà, c'est vérifié, il faut avoir des bêtes qui ont vraiment l'origine génétique prouvée en quelque sorte.
Voilà, il faut que... Alors, depuis... Bon, ça fait maintenant un certain nombre d'années, mais il y a un certain nombre de conformités à avoir au niveau de l'animal. Et puis aussi, qu'elle soit indemne d'un certain nombre de maladies. Les choses ont vraiment évolué. Maintenant, ça devient très technique au niveau de la génétique, entre autres.
D'accord. Voilà. D'accord, très bien. On était dans quelle décennie, là, quand vous exerciez votre activité d'agriculteur ?
Là, vous allez me faire
vieillir. Soyons fous.
Oui, là, vous allez me faire vieillir, Donc là, on était dans les années 70.
D'accord.
On était dans les années 70. Alors, c'est important de le noter, puisque à cette époque-là, on était dans un schéma où il fallait produire. Hein, donc, ça va faire le lien avec ce qu'on pourra évoquer tout à l'heure.
D'accord.
Donc, moi, quand j'étais à l'école d'agriculture, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, on m'a appris à utiliser... le chimique.
Hein,
utilisé l'azote, l'acide phosphorique, la potasse. Il fallait produire. On y est allé de bon cœur. Hein, mais tous mes collègues, et donc j'en ai encore des amis qui sont en retraite comme moi maintenant, ont fait comme moi. Hein, donc,
C'était une pratique incontournable. On ne pouvait pas faire autrement.
Non, c'était une pratique incontournable. Il faut se rappeler qu'on n'était pas très très loin encore de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ce que j'allais dire.
Et on était dans les 30 glorieuses. Mm-hmm. Mais en même temps, il fallait redresser c'est la France. Et au niveau agricole, et c'est là qu'on a vécu la PAC. Hein, donc,
oui, la politique agricole commune de l'Union européenne.
Donc voilà, on était dans ce schéma-là. Ce que l'on est en train de travailler aujourd'hui, ce qu'on est en train de percevoir par rapport à tous ces effets néfastes de cette époque, ça ne nous effleurait même pas.
Bien sûr, ce n'était pas du tout dans les discours ou alors dans des discours extrêmement marginaux qui n'étaient pas relayés dans les médias officiels et dans les institutions officielles.
Tout à fait. Donc, je me rappelle, j'avais des amis, c'était deux frères. Il y en a un qui voulait se mettre au bio, et ce qui est quelque part très bien. Mais,
ça veut dire qu'il était précurseur.
Il était précurseur.
Dans les années 70.
Mais, oui, mais pour nous, c'était un véritable marginal. On disait...
c'est clair.
Excusez-moi l'expression, mais on s'est dit il est complètement à côté de ses pompes.
Et quoi. Je pense qu'il y avait aussi en tête... les restrictions de la guerre.
Bien sûr.
Tout à fait, on était dans ce schéma.
Donc, il fallait absolument pour assurer l'autosuffisance alimentaire.
Mais ne plus reconnaître ça.
Ouais.
Donc on a fait du quantitatif sur le qualitatif. Ouais.
Alors parallèlement, je me suis engagé aussi au niveau syndical à l'époque, puisque j'ai été administrateur de la FDSEA, j'ai été président du Cercle des jeunes agriculteurs, j'ai travaillé au niveau du groupement de défense sanitaire. Voilà, donc j'étais entre guillemets à fond dans le métier.
Et vous étiez déjà dans une forme d'engagement collectif alors, hein, d'accord, en plus de votre travail individuel.
Oui, 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 c'était bon, d'abord
c'est déjà...
C'est déjà
un signe hein, de ce qui va suivre.
Oui, peut-être, peut-être. J'ai toujours trouvé que la rencontre, les échanges avec les hommes étaient pour moi indispensables pour pouvoir avancer, pour pouvoir connaître le monde, etc. D'autant plus qu'il faut bien se dire qu'agriculteur dans un tout petit pays, vous êtes complètement... j'allais dire hors circuit.
Livré à vous-même,
isolé. Voilà, on est livré à soi-même. Et je l'analyse comme ça. Je regrette que les agriculteurs n'aient pas... Alors, c'est sans doute un peu différent maintenant, puisque j'ai quand même décroché. Mais on n'avait pas de vue... On n'avait pas d'ouverture sur l'autre monde.
D'accord. Hein. C'est un peu la... La mentalité quand même historique des agriculteurs, ils sont assez fermés, voilà. Individualistes quand même. Hein.
Tout à fait, tout à fait. On était dans ce schéma-là avec, et je me rends compte, mes frères me disaient, mais qu'est-ce que t'étais pénible parce que tu faisais que de te plaindre. Et voilà, donc on pensait qu'on était les plus mal nantis de la terre, alors que avec ma reconversion, je me suis rendu compte que c'était complètement faux.
D'accord. Voilà. D'accord. Oui, c'est intéressant tout ça.
Et d'ailleurs, donc, ce qui est intéressant dans vos propos, Jean-Claude, vous utilisez toujours le terme d'agriculteur. Le terme de paysan, on n'emploie plus. Pourquoi ? Il y a une connotation négative, j'ai l'impression.
Oui, oui. Alors, si vous voulez, on peut faire un flashback avec ce qu'on voit peut-être un petit peu moins maintenant. Mais ce qu'on a vu, à mon avis, trop longtemps dans les médias, à la télévision, entre autres, quand on représentait, le journaliste interviewait un agriculteur, c'était toujours le vieux gars du coin avec son béret qui ressemblait à rien du tout.
Avec sa gogoise au bec, etc.
Ah ben, c'est vrai que. Alors, les choses ont quand même bien changé.
Ça a changé, ouais. Tout
ça a énormément changé.
C'est vrai
changé.
Que dans ces années-là, c'était un peu ça. Hein. C'était beaucoup. Ça même, la représentation de l'agriculteur, c'était le vieux paysan.
Le vieux paysan, alors que maintenant, ça fait presque envie d'y retourner. Hein. On voit quand même de jeunes agriculteurs, et surtout, et ça j'insiste, de jeunes agricultrices qui ont un professionnalisme tout à fait intéressant et qui, quelque part, renouvellent complètement la profession.
Alors, il y a un moment dans votre parcours où vous allez, puisque ça, je préfigure un petit peu la partie suivante, où vous allez peut-être vous poser des questions sur une orientation, un changement d'orientation professionnelle. Qu'est-ce qui vous amène petit à petit à l'idée d'abandonner cette profession ?
Alors, les choses... je me livre complètement. Ce qui m'a fait... Le vrai souci en agriculture, c'est la trésorerie. D'accord. C'est le manque de trésorerie, c'est-à-dire le manque de liquidité. Ouais. Et on arrivait à se sortir un salaire relativement, j'allais dire, minable.
Ouais, hein, faible, quelque, très, très faible.
Très, très faible. Et donc, parallèlement à ça... Pour justement arriver à avoir de la trésorerie, je faisais de la volaille, j'élevais des volailles en intégration dans mes étables l'été. Et il s'est trouvé qu'un jour, un lot de canards, ils décédaient tous. On se demandait pourquoi. Bon, on les a soignés, bien évidemment, mais j'avais eu beaucoup de pertes sur ce lot. Et puis, comme par hasard, la chaîne à fumier de ces étables était tombée en panne et j'ai tout nettoyé à la main avec une brouette et puis une fourche. Et deux mois plus tard, j'ai pris exactement la même chose que les canards.
Ah oui, d'accord. Vous êtes tombé sérieusement malade.
Voilà, je suis tombé malade.
Très bien.
Et les deux éléments, la trésorerie, la maladie...
Ça a été le déclencheur. D'accord, voilà. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, si vous le voulez bien, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter, pour une fois, je fais la pré-annonce, les Fatal Picard, le retour à la Terre.
Aussi. Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière. Dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km. Le premier iPhone est à 120 km. La dernière poste a fermé. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier des hippies. La main dans la main, avec le dernier lapin. Elle est pas belle, la vie, pour le dernier. dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier pingouin. Avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier dauphin. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier oursin. Penser au monde qu'on laisse à nos enfants. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever. Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais. Mais nous fais tes valises et les miennes aussi. Nous quittons le Larzac pour le paradis. J'ai trouvé le loft dont tu rêvais tant. Au pied de Notre-Dame à crédit sur 100 ans. Le premier médecin était à 25 km. Le premier défibrillateur à 35 km. Le premier hôpital à 120 km. Le dernier cimetière était complet. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier parisien. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier terrien. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier tibétain. Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies. La main dans la main avec le dernier lémurien. La main dans la main avec le dernier pangolin.
Poker menteur.
Galade.
Poker menteur, une émission donc ce soir avec Jean-Claude Grosard, et vous venez d'écouter donc Fatal Paki.
Picard.
Picard, le retour à la Terre, décidément. Alors ici, retour dans le plateau, sur le plateau de Radio Calade. Donc après donc l'agriculture, Jean-Claude, vous vous lancez dans une carrière autour de l'assurance, il me semble, autour de Groupama.
Oui, tout à fait.
Alors expliquez-nous un peu tout ça.
En fait, quand c'est pour faire suivre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est mon épouse un jour qui me dit, ben tu sais pas, on devrait peut-être faire quelque chose, changer carrément. Et elle me disait, et si on reprenait un casino ? Alors je sais pas un casino où on joue, hein, c'était un casino,
un petit commerce.
Alors je trouve que le métier est très noble et très bien, mais je me voyais pas avec une blouse blanche. Vous savez, les casinos autrefois, ils avaient une blouse blanche avec le stylo dans la poche là, ça je le sentais pas.
Et les cigarettes sous l'oreille.
Et ça, je le sentais pas. Et donc, du coup, on a réfléchi. On a même, mon épouse a recherché ce qu'elle pouvait faire, elle. Et d'ailleurs, elle a repris un commerce de chaussures. Et moi, en parallèle, j'ai essayé de trouver ce qui pouvait correspondre à ce que je connaissais au niveau agricole ou para-agricole. Mm-hmm. Ce qui est quelque part peut-être une bêtise, parce que je me suis rendu compte qu'en réalité, il y a vraiment autre chose, comme je le disais tout à l'heure, que l'agriculture, tout ce qui est agricole. Mmh. Et j'ai commencé de démarcher, hein, je me suis un petit peu payé de culot, et c'est vrai que j'étais pas très fier au début parce qu'il y a un certain nombre de stress, mais j'ai rencontré le Crédit Agricole, j'ai rencontré un certain nombre de structures de cette taille-là, et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Groupama, et contre toute attente, on m'a dit, bah, écoutez, on vous prend, et donc à l'époque, c'était en 82.
Donc début des années 80, on est dans la décennie des années 80.
Voilà. Voilà. Mmh. Et donc, à l'époque, c'était, je pense, encore assez facile parce que moi, je suis complètement autodidacte. Mm-hmm. J'ai un diplôme agricole, mm-hmm. mais je n'ai pas d'autres diplômes. Donc voilà, donc je suis rentré à Groupama.
Mais c'est cette expérience-là qu'ils embauchent. Hein, quand ils vous embauchent, ils prennent vos compétences et votre expérience du monde de l'agriculture. C'est ça qui les intéressait.
Tout à fait, tout à fait. Et puisque je me rappelle, le directeur que j'avais rencontré m'avait dit, mais est-ce que vous avez mal au dos? Alors je me demandais bien pourquoi. Parce qu'il m'a tout simplement dit, on va vous mettre avec une voiture et il faudra démarcher des vétérinaires.
Voilà, vous allez faire des kilomètres.
Vous allez faire des kilomètres. Mmh. Donc ça ne me gênait pas. Alors ils se sont un petit peu, là c'est une anecdote qui est intéressante à souligner, ils se sont inquiétés quand même si j'allais être, comment dirais-je, si j'allais être docile. Parce qu'en étant agriculteur, bien évidemment, on a certaines libertés.
La réputation de l'agriculteur, voilà.
Et ils m'ont dit, mais est-ce que vous ne craignez pas de ne pas accepter le travail qu'on va vous confier? Non, à l'époque, c'est ça. Donc voilà, je me suis retrouvé commercial dans le Beaujolais. J'étais basé donc à Villefranche.
Et, nous y voilà dans la calade.
Nous y voilà dans la calade. J'étais place du Promenoir, hein, où est le bureau actuel. Mmh. Mon responsable N+1, c'était Paul Daillé. Et puis, il m'a appris le métier. Il est venu avec moi en tutorat, si on peut dire. Et puis, petit à petit, j'ai fait mon trou, on va dire, au niveau principalement des viticulteurs du Beaujolais. Et j'ai noté un certain nombre. C'est là que j'ai pu rencontrer les Rioto, les... J'avais noté quelques noms.
Quelques noms d'agriculteurs ou viticulteurs emblématiques du Beaujolais.
Voilà, Mélinan, Limousin, qui sont lui, alors par contre c'est maraîcher, Griffon, hein, mm-hmm. tous ces gens-là. Et je me sentais vraiment très à l'aise avec eux, puisque quelque part, je connaissais le métier. Alors le gros avantage que moi j'étais très à l'aise, et en même temps, pour l'entreprise, ils ne pouvaient pas me raconter, excusez-moi du terme, pas me raconter de salade.
Ils ne pouvaient pas vous endormir.
Ils ne pouvaient pas m'endormir. Mmh. Mais je m'étais vraiment lié d'amitié avec bon nombre de nos sociétaires, et d'ailleurs ma cave a été pleine pendant tout le temps que je travaillais dans le Beaujolais.
Non,
c'est vrai, c'était une époque où je me suis vraiment fait plaisir. Mm-hmm. Et puis je voulais aussi là évoluer, et j'ai demandé à mon directeur commercial, qui était basé sur Lyon, de prendre des galons, si on peut prendre cette expression, et je me suis retrouvé chef de secteur, c'est-à-dire j'encadrais une équipe
de commerciaux.
Chef de secteur dans les monts du Lyonnais, donc ça allait de l'Arbrel à Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Martin-en-Haut,
plus au sud, sud-ouest.
Ensuite, on m'a confié l'ensemble du réseau mandataire sur le département. Alors les mandataires, ce sont des commerciaux, mais qui sont à titre individuel.
Voilà. D'accord.
Mais c'était toujours à Groupama. Et puis, ensuite, on m'a confié une autre responsabilité. Donc là, c'était plutôt sur la fin de carrière, où j'étais délégué départemental institutionnel. En clair, c'est un grand titre pour dire que j'étais l'interface entre l'entreprise et les élus, puisque Groupama, c'est une mutuelle avec un certain nombre de conseils d'administration pour chaque caisse locale. Et mon rôle était justement d'expliquer aux élus l'orientation de l'entreprise.
Voilà, donc, d'accord. Et c'est par ce biais que vous commencez à approcher le monde des élus politiques, en quelque
tout
sorte,
à fait.
Locaux, c'est-à-dire
tout à
de
fait.
La région.
Tout
dire.
À fait, puisque j'avais des liens avec, donc, comme je vous l'ai dit, les présidents, les élus des caisses locales, mais qui, quelque part, souvent, on retrouve les mêmes. On mm-hmm. les retrouve dans les conseils municipaux, on le retrouve dans les structures, un syndical ou autre. Mm-hmm. Et c'est aussi ici, si on peut faire le lien, que j'ai commencé de rencontrer Bernard Fialer. Voilà comment ça s'est passé. Alors... Ce passage à Groupama, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours ce que je retiens, c'est la rencontre avec les hommes. Et surtout, ça m'a appris à manager des gens. Et un de mes directeurs me disait, tu sais Jean-Claude, quand tu as en face de toi un de tes commerciaux et qu'il te répond de manière agressive, il ne s'agit pas de répondre de la même façon, il faut comprendre ce qui se passe. Quand quelqu'un est agressif, ça veut dire que quelque part chez lui, il y a un problème. Mmh. Ça m'est resté, ça. Alors c'est pas facile, hein, ça.
La plus difficile d'un métier de cadre, par exemple, en général, c'est diriger gérer les êtres humains et leurs humeurs et leur caractère, leur personnalité. C'est très difficile, on l'apprend souvent sur le tas. Et c'est une compétence précieuse quand on a fini par à peu près la maîtriser.
Et je pense que pour vous, ça devait être plus simple dans le sens où vous étiez agriculteur à la base.
Oui.
Donc je pense que vous pouviez vous mettre à la place de...
Oui, c'est vrai.
Comprendre plus facilement. Je pense que quelqu'un qui à la limite, n'est pas du tout
vous avez des
du
clients, oui. Après, vis-à-vis de l'équipe commerciale, et c'est pas obligatoirement. Hein,
non, mais par rapport aux personnes que vous avez rencontrées sur le terrain.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui m'a marqué, ce qui m'a interpellé surtout, c'est que j'avais dans mes équipes des hommes et j'avais beaucoup de femmes aussi.
Ah oui.
Et le management d'une équipe féminine n'a rien à voir avec le management des hommes. je me rappelle, avec les hommes, pas de souci. À la limite, on me dit, tu me casses les pieds, tu vas faire comme je te dis.
Voilà, ça peut être plus direct.
Plus direct. Alors qu'une femme, j'en ai vu pleurer dans mon bureau et après je me dis, attends, qu'est-ce que j'ai fait pour, comment ça se fait que, voilà. C'est quelque part la frontière peut être aussi très, très mince avec une certaine discrimination, donc c'est pas facile, ça, c'est pas facile. Alors je parle de discrimination puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. J'ai un regret aujourd'hui, un regret parce que ça peut arriver à tout le monde, tout à chacun. Mais un jour, on m'a orienté un homme pour une embauche. Et cet homme, il lui manquait un bras depuis la naissance.
Ouais.
Et il avait été refusé chez mes collègues, etc. Et on m'a dit, bah, tiens, on va l'envoyer à Jean-Claude, il va bien le prendre. j'ai honte aujourd'hui, j'ai honte. J'ai toujours eu honte depuis parce que je me suis dit, quand l'entretien que j'ai eu avec lui... Je voyais que le bras qui manquait.
Ouais.
Et je n'ai pas osé le prendre. Je me suis dit, comment ça va se passer chez les clients ? Je le regrette parce que ça s'appelle la discrimination. Ça, là, j'ai fait une boulette. Donc,
c'est bien d'en avoir pris conscience.
Ouais. Là, j'ai fait une boulette.
Et a priori, c'était quelqu'un de très compétent.
Je pense. Je pense que ça a été quelqu'un de très compétent.
Alors à un moment, vous allez faire cette transition entre votre activité professionnelle à Groupama et puis une autre partie de votre vie, qui est la partie de votre investissement personnel en tant qu'élu local. Vous nous expliquez comment ça se passe, ce passage à cette nouvelle partie de votre vie ?
C'est une anecdote aussi. C'est grâce à une rage de dents. C'est grâce à une rage de dents. Il s'est trouvé qu'un jour, quand vous avez tous eu une rage de dents, quand on est chez le dentiste, enfin, je sais pas vous, mais on n'est pas tranquille. Et on essaye, pour cacher sa peur, de discuter un petit peu. Donc, entre deux petites phases de roulette, j'ai dit à la dentiste, parce que c'était une femme, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien rentrer pour connaître du monde. À Belleville, ça serait bien si je pouvais rentrer au conseil municipal. Et il se trouve que cette jeune femme, cette dentiste, était la femme de Bernard Fialaire. Et donc,
Fialaire, vous pouvez nous situer cette personne ?
Alors Bernard Fialaire, aujourd'hui sénateur, médecin de profession, qui a jamais voulu, malgré tous ses mandats et son activité débordante, abandonner la médecine, et même aujourd'hui en tant que sénateur, il consulte 2 demi-journées par semaine.
D'accord.
Voilà.
Et à l'époque, il était quoi alors ?
Il était médecin. D'accord. Uniquement. Mm-hmm. D'ailleurs, un très très bon médecin, et je le connaissais parce que il s'était trouvé que j'avais assuré sa maman.
D'accord.
Ou plutôt son oncle, qui lui était prêtre et en même temps travaillait dans le nucléaire. Donc,
d'accord. Ouais, original, donc, un prêtre qui travaille dans le nucléaire.
Voilà, tout à fait. Et 2 jours après ma rage de dents, je reçois un coup de fil de Bernard Fialaire en me disant, c'était en 95,
d'accord,
j'envisage de me présenter au département. Si vous voulez, à l'époque on se voyait, si vous voulez, on peut se retrouver chez ma mère. Et c'est ce qui s'est passé. On s'est retrouvé 8 jours plus tard chez sa maman. Il y avait donc Bernard Fialaire, 2 autres personnes et moi-même. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Et derrière, donc, il a été élu conseiller départemental, conseiller général à l'époque.
Oui, ça s'appelait comme ça.
Voilà, conseiller général. Et l'année suivante, il a monté une liste. Et donc, j'étais sur la liste.
D'accord. Liste pour quelle élection ?
L'élection municipale.
Municipale à Belleville.
À Belleville.
D'accord,
à Belleville.
Très bien.
Voilà.
Donc l'année suivante, c'est quoi, 96, 97
95.
Très bien.
Et donc là, on a fait ensemble 4 mandats. Moi, j'ai fait un mandat en tant que conseiller, un mandat où Bernard Fialer m'avait confié la mise en place d'un CISPD. CISPD, ça veut dire Conseil intercommunal de sécurité et de prévention pour la délinquance.
D'accord.
Et j'ai fait 2 mandats en tant qu'adjoint. Et j'étais adjoint au niveau de l'administration générale, adjoint au niveau de la sécurité et adjoint au niveau de la solidarité. Mmh. Alors, ça peut paraître antinomique, la sécurité et la solidarité, mais quelque part, ça permettait de, comment dirais-je, de retrouver... De toucher du doigt les 2 facettes, à la fois sur la prévention, et parfois, de temps en temps, il faut mettre des butées pour pas que ça dérape.
Bien sûr, mettre des limites.
Mettre des limites.
Donc vous êtes resté à la mairie de Belleville 24 ans. Alors,
24 ans, 25 ans, puisqu'il y a eu un mandat de 7 ans.
D'accord.
27
D'accord.
ans. 27 ans.
D'accord.
Et là, j'ai eu le, je dis bien le privilège de pouvoir rencontrer... alors déjà de comprendre l'articulation d'une collectivité, quelle qu'elle soit, puisqu'en même temps, j'étais au centre de gestion à Lyon, et surtout de rencontrer depuis les sous-préfets successifs qui sont venus sur Villefranche, le préfet à l'égalité des chances, le commandant de gendarmerie, les commandants de gendarmerie, le directeur général des pompiers, voilà.
Vous étiez à l'interface de tous les services de nation, enfin le service étatique, alors via sous-préfet, c'est carrément les représentants des ministères, mais aussi tous les services de sécurité, pompiers, gendarmerie. Oui, vous aviez contact avec tous ces gens-là
et tous leurs collaborateurs. Mmh. Et pour moi, ça a été vraiment un enrichissement très très important, parce que on voit toujours ça de l'extérieur et je me suis rendu compte qu'y compris le préfet, que ce sont des gens comme nous qui ont des doutes autant que nous. Ils le font pas voir, mais quand on les invite à manger, quand on les invite à dîner ensemble, là on voit un petit peu les j'allais pas dire les failles, mais les interrogations, les interpellations qu'ils ont comme nous.
Qui se cache derrière la cuirasse du représentant de l'État.
Voilà, tout à fait.
Et je pense qu'autour des déjeuners, je pense qu'on est plus libre, on a l'esprit plus libre. C'est important aussi que dans un bureau autour d'une table.
Ouais, voilà.
C'est pas la même chose.
C'est tout à fait ça.
Et donc, Monsieur Fialer a été donc le maire de Belleville pendant combien de temps alors ?
Il a été le maire de Belleville pendant 25 ans.
Waouh, 25 ans.
Et en parallèle, donc, il était président de l'intercommunalité. Mmh. Et puis, il s'est présenté une ou deux fois, je ne me rappelle plus, aux législatives. Mais il a pas pu être élu. Mmh. Il était président des radicaux valoisiens. Ouais, je me trompe pas.
Le fameux parti radical valoisien.
Valoisien qui a essayé de se structurer entre les radicaux de gauche et les radicaux de droite, mais je crois qu'ils se sont séparés. Enfin bref, ils se chamaillent un peu.
C'était des résidus de la de mouvements politiques qui étaient puissants au début du XXe siècle, les radicaux. Hein, mais après, ils sont un peu réduits en termes d'influence.
C'est le premier parti politique de France au niveau historique. Maintenant, ça s'est dilué. Ouais. Dans le Parti Socialiste ou autre.
Et Bernard Fialer est fier de cette filiation. Mm-hmm. Son mentor, entre autres, il y avait Édouard Herriot, bien évidemment.
D'accord.
Mais Clémenceau,
il m'en parlait souvent. Ça me parle tout ça, oui.
Voilà. Effectivement, c'est des grands personnages de l'histoire de France.
Et il a toujours... et je lui fais un petit clin d'œil parce qu'il a toujours... défendu sa liberté d'expression. Et d'ailleurs, il siège aujourd'hui dans un petit groupe, mais il n'a pas peur de dire les choses telles qu'il les sent et parfois de s'opposer.
D'accord, très bien. Et donc, cette longue carrière d'élu local, vous gardez un peu votre, vos origines agricoles, elles restent encore là ou est-ce que ça s'est effacé derrière les tâches qui vous ont occupé dans la sécurité, dans la prévention, etc. Ou est-ce que vous avez eu l'occasion quand même de représenter quelque part aussi un peu le monde agricole dans le monde de la mairie de Belleville?
Oui, alors là Bernard, très adroitement, hein, parce que c'est quelqu'un qui sait aussi, utiliser les gens qui sont autour de lui, me faisait appel quand il y avait quelque chose au niveau agricole. Mais je l'ai plus utilisé, et je l'ai décrit dans mon dernier ouvrage, dans mes missions qui m'ont été confiées sur le bon sens paysan.
D'accord.
Ça a toujours été quelque chose. Moi, c'est mon fil conducteur.
Mais c'est quoi ces missions dont vous parlez?
C'est les missions d'adjoint.
Ah, d'accord, ok.
Dans mon travail
donc
d'adjoint.
Certaines ont porté comme ça sur ce type de thématique.
Voilà, donc voilà, garder les pieds sur terre.
D'accord.
Voilà, pas partir dans des élucubrations.
Ah oui, ok, je comprends.
Voilà, c'est comprends. Ça, pas partir dans des élucubrations et pas être dans des postures radicales, quelles qu'elles soient. Savoir.
Ouais.
Prendre le recul nécessaire et bien le bon sens paysan.
Ouais, parce qu'on reste un élu local, donc voilà, on est quand même rattaché à un territoire, à des réalités concrètes. Il y a aussi ça également. Hein.
Des réalités
concrètes.
Faut pas
perdre de vue.
Et des rencontres avec nos concitoyens, des rencontres avec des gens, comment dirais-je, qui sont vraiment entre guillemets au fond du trou.
Certains,
D'autres qui viennent vous voir, mais en réalité, c'est un peu tiré par les cheveux, leur demande. Et puis. D'autres qui vous apportent vraiment un plus, qui vous redonnent l'énergie nécessaire pour poursuivre. Parce qu'il est clair que pour donner aux autres, il faut pouvoir en recevoir un petit peu. Autrement, on ne va pas y arriver longtemps.
Absolument.
Totalement.
Nous allons écouter, donc, nous allons faire une deuxième pause musicale. Nous allons écouter Jean Ferrat, La Montagne.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Vibration Calade.
Vous venez donc d'écouter Jean Ferrat à la montagne. Vous êtes bien calé sur Radio Calade, émission avec Jean-Claude Grosard. Alors Jean-Claude, autre casquette sur votre tête cette fois-ci. Vous êtes écrivain aussi. Alors pouvez-vous nous dire un petit peu plus votre métier d'écrivain, il vient comment? Il vient quand?
Alors, je ne sais pas si on peut dire un métier, hein, c'est plutôt une activité. Oui, c'est plutôt une envie. Alors, j'ai toujours eu envie d'écrire. Je me suis amusé à écrire sur des cahiers d'écoliers, des choses comme ça. Et puis, pendant ma vie active, j'ai jamais pris le temps. Parce que, quelque part, quand on a envie, vraiment, on prend le temps. On trouve toujours le moment de faire ce qu'on a envie, quelle que soit l'activité. C'est à la retraite que, là, les choses se sont un petit peu décantées. Et je me suis lancé. Il y avait ma première histoire qui me trottait dans la tête depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle Le dernier parcours. Je me suis inspiré d'un fait divers.
Donc c'est donc un roman.
Un roman. Mes ouvrages, ce sont des romans où j'intègre une intrigue. Mm-hmm. Mais ce sont des romans que je souhaite m'appuyer sur des faits de société, je ne sais pas, mais sur quelque chose qui interpelle.
Et qui vous interpelle aussi, il y a une part de votre vécu également.
Tout à fait. Alors, bien que dans mes romans, les héros, ce n'est pas moi, comme parfois on a voulu le dire, mais on met toujours un petit peu
de soi, bien sûr.
Dans les romans. Hein.
Le contexte de votre premier roman, donc ?
Le contexte, c'est un crime non élucidé dans mon petit pays, Saint-Vincent-des-Prés, qui s'est passé en 1925. Un soir d'août, un jeune homme, en venant voir sa fiancée, s'est fait tuer. On n'a jamais trouvé l'assassin. La fiancée s'est jamais mariée. Et moi, quand j'étais tout gosse, avec mes frères et sœurs, elle nous a fait le catéchisme. Et
donc vous êtes inspiré d'une histoire vraie.
On s'est inspiré d'une histoire vraie. J'ai fait des recherches d'ailleurs aux archives départementales de Saône-et-Loire, où on a retrouvé les articles des journaux de l'époque par rapport à cette histoire. Et à travers cette histoire, donc, j'ai voulu refaire faire l'enquête par un jeune couple contemporain. Donc il y a des flashbacks dans l'ouvrage. Mais ça m'a permis de décrire un petit peu justement toute cette vie rurale de l'époque, cette vie très rude. Puis aussi, j'ai toujours été interpellé par toutes ces femmes, ces jeunes femmes entre autres, qui se sont retrouvées veuves, puisque ça date dans les années 25,
après la Première Guerre mondiale.
Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en parle pas de ça, très peu. C'est mon premier ouvrage.
Qui s'appelle, rappelez-nous?
Le dernier parcours.
D'accord, très bien. Et alors, c'était en quelle année qu'il est sorti ce premier?
En 2014.
D'accord. Et le second?
Et contre toute attente, avec celui-ci, j'ai eu le prix du roman à la Vague des livres à Villefranche.
Bravo. Félicitations.
Voilà. Félicitations.
Le deuxième, il a trait à ma reconversion, si on peut dire, puisque j'ai voulu écrire un ouvrage sur le harcèlement moral en entreprise. Wow. Vous savez, dans les grandes entreprises, il y a le patron qui, en général, donne une orientation. Les entreprises, il y a des entreprises paternalistes et puis des entreprises beaucoup plus dures.
Dans leur mode de management.
Nous, à Groupama, on est dans un schéma d'entreprise. À l'époque, maintenant, ça a dû peut-être changer, j'en sais rien. Paternaliste. Mais il y avait toujours des petits chefs qui se croyaient plus chefs que les autres.
Et eux peuvent mettre un management bien plus dur.
Un management bien plus dur. Et donc voilà, je me suis inspiré de ça pour écrire un roman sur justement ce harcèlement moral dans l'entreprise ou parfois, parce que j'ai eu deux collègues qui ont été obligés d'abandonner leur métier par rapport à ça. Une petite anecdote, une de mes collègues a eu un cancer du sein et elle ne pouvait plus servir, paraît-il que ça c'est souvent. Elles ont des difficultés à repasser, par exemple, sur les droitières, servir de la souris d'ordinateur. Le petit chef, il a dit, t'as qu'à te servir de la main gauche. Ouais. Voilà. C'est ce genre de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais qui peuvent détruire.
Qui sont des indices et qui généralement se cumulent à tout un tas d'autres choses et qui font globalement une pratique de harcèlement.
Voilà, on peut tuer avec une arme, bien évidemment, mais on peut tuer quelqu'un des mots MOTS.
Totalement. Et d'ailleurs, le harcèlement en entreprise, c'est quelque chose quand même, malheureusement, d'assez répandu. Ouais. Et c'est très bien d'en avoir fait un roman parce que je trouve que la représentation à travers des films ou des romans de ces faits-là, c'est pas si fréquent que ça. C'est quand même quelque chose qui n'est pas beaucoup représenté à travers les fictions. Et c'est bien de mettre cette réalité sur le devant de la scène.
Voilà, j'ai essayé de retransmettre ça. Alors, que j'oublie pas.
Il s'appelle comment, deuxième, alors ?
Le deuxième s'appelle L'étang noir.
L'étang noir. D'accord. Et il est sorti en quelle année ?
Alors, deux ans après, donc en 2016. 2016, ça doit être noté là.
Très bien.
Alors le troisième, toujours édité, alors un petit clin d'œil à Damien Corban des éditions Héraclite, puisque c'est lui mon éditeur, mm-hmm. hein, une jeune maison d'édition du Beaujolais.
D'accord.
Et donc j'ai le plaisir de pouvoir l'aider un petit peu à la diffusion de sa collection. Mm-hmm. Et je trouve que je tiens à lui assurer tout mon soutien, parce que l'édition aujourd'hui, c'est pas facile, et arriver à se faufiler au niveau des grandes éditions.
Être un petit éditeur local. Ça doit être encore plus difficile.
Voilà. Et c'est très bien. Mm-hmm. Alors j'ai poursuivi avec un autre ouvrage qui s'appelle Résurgence. C'est suite à une rencontre que j'ai faite un jour, comme aujourd'hui, comme je discutais avec une personne qui m'a dit qu'elle était psychogénéalogiste. J'ai voulu en savoir mm-hmm. un petit peu plus derrière ce mot un petit peu barbare, mm-hmm. et elle m'a expliqué que c'est les secrets, les non-dits qui se transmettent de génération en génération.
Oui, tout à fait.
Et elle m'a dit que si aujourd'hui les jeunes femmes portaient du noir, c'est qu'inconsciemment, elles pourraient porter le deuil des soldats de la guerre de 14-18. En clair, donc c'est une approche qui a été faite par Madame Anne Ancelin dans les années 70, quand il y a un fait très très grave. Mm-hmm. Vous connaissez sans doute le principe. Donc la génération suivante, on n'en parle pas, c'est le déni. Mm-hmm. La génération suivante, intuitivement, inconsciemment, s'en passe dans le psychique et le physique, la physiologie, et ça peut ressortir sous forme de pathologie à la
pathologies diverses. Voilà. Oui, tout à fait. Et c'est très difficile de faire le lien à travers les générations. Et Anne Ancelin a été donc une des premières à lancer cette... à faire connaître cette discipline, la psychogénéalogie. C'est elle qui avait écrit Aïe mes aïeux.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça, ce fameux ouvrage qui est assez renommé sur la psychogénéalogie. Ouais. Très intéressant. Donc, vous avez mis en scène ça à travers des familles descendantes de traumatismes issus de la Première Guerre mondiale, alors.
Alors, voilà. Donc, après, j'en ai fait un roman, mais comme à chaque fois, je me suis inspiré de choses que j'ai vues ou que j'ai entendues. Et dans le cas présent, c'est un jeune couple dont le mari a des crises d'angoisse récurrentes à mettre son couple en péril. Mais au lieu de divorcer, la dernière chose que son épouse fait, elle va essayer de refaire une enquête sous forme policière.
D'accord.
Pour rechercher dans les générations antérieures qu'est-ce qui a pu se passer. Alors c'est vrai qu'il y a un fait à un moment donné qui fait que ça remonte à la guerre de 14 et ça se passe.
Et justement, j'en ai parlé quand j'avais fait l'émission, souviens-toi Patrick, sur la guerre de 14.
Oui.
Je pense à la bataille de Verdun, toute l'armée française passe à Verdun. C'est-à-dire que c'est toute la population française qui est concernée.
Oui,
c'est
vrai.
Et je pense qu'il y a des répercussions à très long terme dont on commence à avoir les effets maintenant.
Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et ce que m'a dit cette personne, qui s'appelle Agnès Paoli, c'est quelque part, c'est ça.
D'accord, très bien. Et donc, on arrive à votre...
Alors, le dernier, quatrième ouvrage.
Quatrième ouvrage.
Nuance de verre.
Dernier à ce jour.
Voilà, oui, dernier à ce jour. Parce que là, j'ai un autre sur le...
Et sur le feu, bien sûr.
Voilà. Nuance de verre.
De quoi parle
de
ce
quoi,
quatrième ouvrage?
Alors ici, on va retrouver mon âme de paysan. Mmh. Uh-huh. Mon âme de paysan, où aujourd'hui, les agriculteurs sont trop souvent, à mon avis, ça n'engage que moi, sont trop souvent vilipendés par une certaine frange d'écologistes radicaux. Je dis bien radicaux, je dis
d'accord.
pas... Parce que bien évidemment, il n'est pas question, de nier les faits, c'est-à-dire le réchauffement climatique, les côtés néfastes des pesticides.
Une agriculture très chimique.
Toutes ces choses-là. Mm-hmm. Voilà, une agriculture très chimique où aujourd'hui, il faut revenir à des choses beaucoup plus propres, beaucoup plus pointues.
Voilà, mais pour entamer une mutation.
Voilà. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Et trop souvent, nos agriculteurs sont pointés du doigt par des personnes qui, entre guillemets, n'y connaissent pas grand-chose. Mm-hmm. Et entre autres, comme je le dis dans mon livre, et comme j'ai lu beaucoup de choses là-dessus, c'est bien joli, mais j'en ai un agriculteur qui parle, j'en ai encore point vu de ces écolos qui prennent la pioche. parce qu'en fin de compte, c'est ça.
Oui, c'est un phénomène urbain, en fait.
Oui, c'est un phénomène urbain. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de revenir à une culture beaucoup plus saine, beaucoup plus importante.
Très bien, très bien. Et celui-ci, il a été publié quand exactement?
Fin juillet, enfin surtout il a démarré...
Fin juillet 2021, très récemment.
Très récemment.
D'accord, très bien.
Voilà.
Et vous l'avez situé géographiquement toujours dans la région,
C'est dans la région, parce que quand j'écris, je m'inspire de ce que je vois, de les paysages, des choses comme ça. Mais en réalité, il pourrait se passer n'importe où.
Très bien. Jean-Claude, nous avons passé un très très bon moment ensemble.
Donc un parcours très riche. Hein, de... On a tenu à vous
C'était
inviter
vraiment par, passionnant.
À cause de la richesse de votre parcours et de son implantation locale et tous les aspects agriculture, élu local et puis écrivain. Donc merci pour ce moment très agréable.
Merci beaucoup. Merci Mathieu. Merci Patrick.
Merci beaucoup. C'est un véritable privilège d'être interviewé par vous deux et ça m'a vraiment fait plaisir.
Merci. Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.
Poker Menteur. Avec Patrick Trouilloux dans le rôle de Patrick Trouilloux
et Franck Bonnet dans le rôle de Franck Bonnet.
Poker Menteur. L'émission qui interroge le monde
de Villefranche à Tataouine.
Calade 100.9.